Jules Verne, Le Sphinx des glaces. Deuxième partie, chapitre 11, Au milieu des brumes. « Eh bien, monsieur Jarling, me dit le bosseman, lorsque le lendemain, nous nous retrouvâmes en face l'un de l'autre. Il faut en faire notre deuil. »« Notre deuil, Hurliguerly, et de quoi ?»« Du pôle sud, dont nous n'avons même pas aperçu la pointe. » »« Oui. » et qui doit être maintenant à quelques vingtaines de milles en arrière. Que voulez-vous? Le vent a soufflé sur cette lampe australe, et elle était éteinte au moment où nous sommes passés. Voilà une occasion que nous ne rencontrerons plus guère, j'imagine. Comme vous dites, monsieur Jarling. Et nous pouvons renoncer à jamais sentir le bout de la broche terrestre tourner entre nos doigts. Vous avez d'heureuses comparaisons, Bosseman. Et à ce que je viens de dire, j'ajoute que notre véhicule de glace nous charrie au diable, et pas précisément dans la direction du cormoran vert. Allons, allons. Campagne inutile, campagne manquée, et qu'on ne recommencera pas de sitôt. En tout cas, campagne à finir, et sans flâner en route. Car l'hiver ne tardera pas à montrer son nez rouge, ses lèvres gercées et ses mains crevassées d'engelures. Campagne pendant laquelle le capitaine Langy n'a point retrouvé son frère. Ni nous, nos compatriotes, ni Dirk Peters, son pauvre Pim. Vrai tout cela, et c'était le résumé de nos déboires, de nos déconvenues, de nos déceptions. Sans parler de l'Holbrane anéanti, cette expédition comptait déjà 9 victimes. De 32 qui avaient embarqué sur la goélette, nous étions réduits à 23. Et à quel chiffre tomberions-nous encore? En effet, du pôle austral au cercle antarctique, on compte une vingtaine de degrés, soit 1 200 000 marins, et il serait nécessaire de les franchir en un mois, ou 6 semaines au plus, sinon la banquise se trouverait reformée et refermée. Quant à un hivernage sous cette partie de l'Antarctique, personne de nous ne put y survivre. D'ailleurs, nous avions perdu tout espoir de recueillir les survivants de la Jane, et l'équipage ne formait plus qu'un vœu, traverser le plus rapidement possible ces effrayantes solitudes. Du sud que notre dérive avait été jusqu'au pôle, elle était devenue nord, et à la condition qu'elle persistât, peut-être serions-nous favorisés de quelques bonnes chances qui nous en compenseraient tant de mauvaises. Dans tous les cas, pour employer une locution familière, il n'y avait qu'à se laisser aller. Qu'importe si ces mers vers lesquelles se dirigeait notre iceberg n'étaient plus celles de l'Atlantique méridional, mais celles de l'océan Pacifique. Si les terres les plus rapprochées, au lieu des South Orney, des Sandwich, des Falkland, du Cap Horn, des Kerguelen, seraient l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. C'est pourquoi Hurliguerly avait-il raison de le dire, et à son vif regret, ce n'était pas chez le compère Atkins et dans la salle basse du Cormoran vert qu'il irait boire le coup du retour. Après tout, monsieur Jarling, me répétait-il, il y a encore d'excellentes auberges à Melbourne, à Hobart Town, à Dundin. Le tout est d'arriver à bon port. La brume ne s'étant pas levée pendant les journées des 2, 3 et 4 février, il eût été difficile d'évaluer le déplacement de notre iceberg depuis qu'il avait dépassé le pôle. Toutefois, le capitaine Langy et Jem West croyaient pouvoir l'estimer à 250 milles. En effet, le courant ne semblait avoir ni diminué de vitesse ni changé de direction. Que nous fussions engagés dans un des bras de mer entre les deux moitiés d'un continent, l'une à l'est, l'autre à l'ouest, qui formait le vaste domaine de l'Antarctique, cela ne paraissait pas douteux. Aussi trouvais-je très regrettable de ne pouvoir atterrir d'un côté ou de l'autre de ce large détroit, dont l'hiver ne tarderait pas à solidifier la surface. Lorsque j'en causais avec le capitaine Langy, il me fit la seule réponse logique. Que voulez-vous, monsieur Jarling? Nous sommes bien impuissants, il n'y a rien à faire. Et, où je reconnais bien cette malchance qui nous accable depuis quelque temps, c'est précisément dans la persistance de ces brumes. Je ne sais plus où nous sommes. Impossible de prendre hauteur. Et cela au moment où le soleil va disparaître pour de longs mois. J'en reviens toujours au canot, dis-je une dernière fois. Avec le canot, ne pourrait-on pas... aller à la découverte? Y pensez-vous? Ce serait une imprudence que je ne commettrais pas, et que l'équipage ne me laisserait pas commettre. Je fus sur le point de m'écrier. Et si votre frère William Guy, si vos compatriotes se sont réfugiés sur un point de cette terre. Mais je me contins. À quoi bon renouveler les douleurs de notre capitaine? Cette éventualité, il avait dû y songer. Et pour avoir renoncé à poursuivre ses recherches, c'est qu'il s'était rendu compte de l'inutilité en même temps que de l'inanité d'une dernière tentative. Après tout, et cela lui laissait encore une vague espérance, peut-être s'était-il fait ce raisonnement qui méritait quelque attention. Lorsque William Guy et les siens avaient quitté l'île Tsalal, la saison d'été commençait. Devant eux s'ouvrait la mer libre, traversée par ces mêmes courants du sud-est dont nous avions subi l'action, d'abord avec l'Hullbrain, ensuite avec l'iceberg. En outre des courants, ils avaient dû être favorisés, comme nous l'avions été, par les brises permanentes du nord-est. De là cette conclusion que leur canot, à moins qu'il eût péri dans un accident de mer, devait avoir suivi une direction analogue à la nôtre, et à travers ce large détroit, être arrivé jusqu'à ces parages. Et dès lors, était-il illogique de supposer, ayant sur nous une avance de plusieurs mois, après avoir remonté au nord, franchi la mer libre, passé la banquise, que leur embarcation fût parvenue à sortir du cercle antarctique, enfin que William Guy et ses compagnons eussent rencontré quelques navires qui les auraient déjà rapatriés? En admettant que notre capitaine se fût rangé à cette hypothèse, laquelle, je l'avoue, exigeait tant de bonne chance, trop même, il ne m'en avait jamais dit un mot. Peut-être car l'homme aime à conserver ses illusions. Peut-être craignait-il qu'on lui démontrât les côtés faibles de ce raisonnement. Un jour je parlais dans ce sens à Jim West. Le lieutenant, peu accessible aux entraînements de l'imagination, refusa de se rendre à mon avis. De prétendre que si nous n'avions pas retrouvé les âmes de la Jane, cela tenait à ce qu'ils avaient déjà quitté ces parages avant notre arrivée, qu'ils étaient déjà revenus dans les mers du Pacifique, cela ne pouvait entrer dans un esprit aussi positif que le sien. Quant au bosseman, lorsque j'appelais son attention sur cette éventualité, « Vous savez, monsieur Jarling, répliqua-t-il, tout arrive. Ou du moins, ça se dit volontiers. Et pourtant que le capitaine William Guy et ses hommes soient, à l'heure qu'il est, en train de boire un bon coup de brandevin, de gin ou de whisky dans un des cabarets de l'ancien ou du nouveau continent, non, non. » C'est aussi impossible qu'à nous d'être attablés tous les deux demain au Cormoran vert. Durant ces 3 jours de brume, je n'avais point aperçu Dirk Peters. Ou plutôt, il n'avait point cherché à se rapprocher de moi. Et était obstinément resté à son poste, près de l'embarcation. Les questions de Martin Holt, relativement à son frère Ned, semblaient indiquer que son secret était connu. Du moins en partie. Aussi se tenait-il plus que jamais à l'écart, dormant pendant les heures de veille, veillant pendant les heures de sommeil. Je me demandais même s'il ne regrettait pas de s'être confié à moi, s'il ne s'imaginait pas avoir excité ma répugnance. Il n'en était rien, et j'éprouvais pour le pauvre métis une profonde pitié. Je ne saurais dire combien nous parurent tristes, monotones, interminables, les heures qui s'écoulèrent au milieu de ce brouillard dont le vent ne pouvait déchirer les paires d'eau. Même avec la plus minutieuse attention, on ne parvenait pas à reconnaître, n'importe à quelle heure, quelle place le soleil occupait au-dessus de l'horizon, sur lequel l'abaissait peu à peu sa marche spiraliforme. La position de l'iceberg en longitude et en latitude ne pouvait donc être relevée. Dérivait-il toujours vers le sud-est, ou plutôt vers le nord-ouest depuis qu'il avait dépassé le pôle? C'était probable, ce n'était pas sûr. Animé de la même vitesse que le courant, comment le capitaine Len Guy aurait-il pu déterminer son déplacement, alors que les vapeurs empêchaient de prendre aucun point de repère? Il eût été immobile qu'il n'y aurait eu pour nous aucune différence appréciable, car le vent avait calmi, nous le supposions du moins, et pas un souffle ne se faisait sentir. La flamme d'un fanal, exposé à l'air, ne vacillait pas. Des cris d'oiseaux, sorte de croassement affaibli à travers cette atmosphère ouatée de brume, interrompait seul le silence de l'espace. Des vols de pétrels et d'albatros rasaient la cime sur laquelle je me tenais en observation. En quel sens fuyaient ces rapides volateurs que les approches de l'hiver chassaient déjà peut-être vers les confins de l'Antarctique? Un jour, le bosseman, qui dans le but de se rendre compte était monté au sommet, non sans risque de se rompre le cou, fut heurté à la poitrine si violemment par un vigoureux quebrantal huesos, sorte de pétrelle gigantesque d'une envergure de 12 pieds, qu'il tomba à la renverse. « Maudite bête, me dit-il, lorsqu'il fut redescendu au campement. Je l'ai échappé belle. D'un coup, pan, les 4 fers en l'air, comme un cheval qui se paumoie sur l'échine. Je me suis rattrapé où j'ai pu. Mais j'ai vu le moment où mes mains allaient larguer tout. Des arêtes de glace, vous savez, ça vous glisse comme de l'eau entre les doigts. Aussi lui ai-je crié à cet oiseau. Tu ne peux donc pas regarder devant toi. Il ne s'est même pas excusé, le fichu animal. » Le fait est que le bosseman avait risqué d'être précipité de bloc en bloc jusqu'à la mer. Dans l'après-midi ce jour-là, nos oreilles furent atrocement écorchées par des braiements qui montaient d'en bas. Ainsi que le fit observer Hurliguerly, du moment que ce n'étaient pas des ânes qui poussaient ces braiements, c'étaient des pingouins. Jusqu'ici, ces innombrables hôtes des régions polaires n'avaient point jugé à propos de nous accompagner sur notre îlot mouvant. Et alors que la vue pouvait s'étendre large, nous n'en avions pas aperçu un seul, ni au pied de l'iceberg, ni sur les glaçons en dérive. À présent, nul doute qu'ils fussent là par centaines ou par milliers, car le concert s'accentuait avec une intensité qui témoignait du nombre des exécutants. Or, ces volatiles habitent plus volontiers soit les marges littorales des continents et des îles de ces hautes latitudes, soit les icefields, qui les avoisinent. Leur présence n'indiquait-elle pas la proximité d'une terre ? Je le sais, nous étions dans une disposition d'esprit à nous raccrocher à la moindre lueur d'espoir, comme l'homme, en danger de se noyer, se raccroche à une planche, la planche de salut. Et que de fois elle s'enfonce ou se brise au moment où l'infortuné vient de la saisir. N'était-ce pas le sort qui nous attendait sous ce terrible climat ? Je demandai au capitaine Guy quelles conséquences il tirait de la présence de ces oiseaux. « Ce que vous en pensez, monsieur Jarling, » me répondit-il. « Depuis que nous sommes en dérive, aucun d'eux n'avait encore cherché refuge sur l'iceberg. Et actuellement, les y voici, en foule, si nous en jugeons par leurs cris assourdissants. D'où sont-ils venus ? À n'en pas douter d'une terre dont nous sommes peut-être assez près. « Est-ce aussi l'avis du lieutenant ? » demandai-je. « Oui, monsieur Jarling, et vous savez s'il est homme à se forger des chimères ?»« Non, certes. » »« Et puis il y a autre chose qui l'a frappé, comme moi, et qui ne semble pas avoir provoqué votre attention. »« De quoi s'agit-il ? » ?»« De ces meuglements qui se bêlent au braiement des pingouins. Prêtez l'oreille, et vous ne tarderez pas à les entendre. » J'écoutais, et évidemment, l'orchestre était plus complet que je ne l'avais supposé. « En effet, » dis-je. Je les distingue, ces mugissements plaintifs. Il y a donc aussi des phoques ou des morses. C'est chose certaine, monsieur Jarling, et j'en conclus que ces animaux, oiseaux et mammifères, très rares depuis notre départ de l'île Tsalal, fréquentent ces parages où nous ont porté les courants. Il me semble que cette affirmation n'a rien de hasardé. Rien, capitaine, pas plus que d'admettre l'existence d'une terre avoisinante. Oui, quelle fatalité d'être enveloppé de cet impénétrable brouillard, qui ne permet pas de voir à 1/4 mille au large. « Et qui nous empêche même de descendre à la base de l'iceberg, » ajouta le capitaine Lengui. Là, sans doute, nous aurions pu reconnaître si ces eaux charrient des salpas, des laminaires, des fucus, ce qui nous fournirait un nouvel indice. Vous avez raison, c'est une fatalité. « Pourquoi ne pas essayer, capitaine ?»« Non, monsieur Jarling, ce serait s'exposer à des chutes, et je ne permettrai à personne de quitter le campement. Après tout, si la terre est là, j'imagine que notre iceberg ne tardera pas à l'accoster. » « Et s'il ne le fait pas ? » répliquai-je. « S'il ne le fait pas, comment le pourrions-nous faire ?»« Et le canot, » pensais-je. « Il faudra pourtant bien se décider à l'utiliser. » Mais le capitaine Lengui préférait attendre, et qui sait, si dans les circonstances où nous étions, ce n'était pas le parti le plus sage. Quant à la base de l'iceberg, la vérité est que rien n'eût été plus dangereux que de s'engager en aveugle sur ces pentes glissantes. Le plus adroit de l'équipage, le plus vigoureux, Dirk Peters lui-même, n'aurait pu y réussir sans quelque grave accident. Cette funeste campagne comptait déjà trop de victimes, dont nous ne voulions pas accroître le nombre. Je ne saurais donner une idée de cette accumulation de vapeur qui s'épaissir encore pendant la soirée. À partir de 5 heures, il devint impossible de rien distinguer à quelques pas du plateau où se dressaient les tentes. Il fallait toucher de la main pour s'assurer que l'on était l'un près de l'autre. Se parler n'eût pas suffi, car la voix ne portait guère mieux que la vue dans ce milieu assourdi. Un fanal allumé ne laissait apercevoir qu'une sorte de lumignon jaunâtre, sans pouvoir éclairant. Un cri n'arrivait à l'oreille que très affaibli, et seuls les pingouins étaient assez vociférants pour se faire entendre. Il n'y avait pas lieu, je le note ici, de confondre ce brouillard avec le frost rime, la fumée gelée, que nous avions observée antérieurement. D'ailleurs, ce frost rime, qui exige une assez haute température, se tient ordinairement au ras de la mer, et ne s'élève à une centaine de pieds que sous l'action d'une forte brise. Or le brouillard dépassait de beaucoup cette altitude, et j'estime qu'on n'aurait pu s'en dégager qu'à la condition de dominer l'iceberg d'une cinquantaine de toises. Vers 8 heures du soir, les brumes à demi condensées étaient si compactes que l'on sentait une résistance à la marche. Il semblait que la composition de l'air fût modifiée, comme s'il allait passer à l'état solide. Et involontairement, je songeais aux étrangetés de l'île Tsalal, cette eau bizarre, dont les molécules obéissaient à une cohésion particulière. Quant à reconnaître si ce brouillard avait une action quelconque sur la boussole, cela n'était pas possible. Je savais au surplus que le fait avait été étudié par les météorologistes et qu'ils se croient en droit d'affirmer que cette action n'a aucune influence sur l'aiguille aimantée. J'ajoute que depuis que nous avions laissé le pôle sud en arrière, aucune confiance ne pouvait plus être accordée aux indications du compas, qui s'affolait aux approches du pôle magnétique vers lequel nous marchions sans doute. Donc rien ne permettait de déterminer la direction de l'iceberg. À 9 heures du soir, ces parages furent plongés dans une assez profonde obscurité, bien que le soleil, à cette époque, ne descendît pas encore sous l'horizon. Le capitaine Lenghi, voulant s'assurer que les hommes étaient rentrés au campement et prévenir ainsi toute imprudence de leur part, fit l'appel. Chacun, après avoir répondu à son nom, vint prendre sa place sous les tentes, où les fanaux embrumés ne donnaient que peu ou pas de lumière. Lorsque son nom fut prononcé, puis jeté à plusieurs reprises par la voix éclatante du bosseman, le métis fut le seul à ne pas répondre à cet appel. Hurliguerly attendit quelques minutes. Dirk Peters ne parut pas. Était-il donc resté près du canot? C'était probable, mais inutile, car notre embarcation ne risquait pas d'être enlevée par ce temps de brouillard. « Est-ce que personne n'a vu Dirk Peters de la journée ?» demanda le capitaine Lenghi. « Personne, » répondit le bosseman. « Pas même au dîner de midi ?»« Pas même, capitaine. Et cependant, il ne devait plus avoir de provisions. » « Lui serait-il donc arrivé malheur ?»« N'ayez crainte, » s'écria le bosseman. « Ici, Dirk Peters est dans son élément, et ne doit pas être plus embarrassé au milieu des brumes qu'un ours polaire. Il s'est déjà tiré d'affaire une première fois. » Il s'en tirera une seconde. Je laissai dire Hurliguerly, sachant bien pourquoi le métis se tenait à l'écart. Dans tous les cas, du moment que Dirk Peters s'obstinait à ne pas répondre, et les cris du bosseman avaient dû parvenir jusqu'à lui, il était impossible de se mettre à sa recherche. Cette nuit-là, j'en ai la conviction, personne, sauf Endicott peut-être, ne put dormir. On étouffait sous le couvert des tentes, où l'oxygène manquait. Et puis tous, plus ou moins, nous subissions une impression très particulière, en proie à une sorte de pressentiment bizarre, comme si notre situation allait se modifier en meilleur ou en pire, en admettant qu'elle pût empirer. La nuit s'écoula sans alerte, et à 6 heures du matin, chacun vint humer au dehors un air plus salubre. Même état météorologique que la veille, avec brume d'une densité extraordinaire. On constata que le baromètre avait remonté, trop vite, il est vrai, pour que cette hausse fût sérieuse. La colonne de mercure marquait 30 pouces 2 dixièmes, 767 mm, le maximum qu'elle eût atteint depuis le passage de l'Holbein au cercle antarctique. D'autres indices se révélaient aussi, dont nous avions à tenir compte. Le vent qui fraîchissait, vent du sud, depuis que nous avions dépassé le pôle austral, ne tarda pas à souffler en grande brise. Une brise à deux ris, comme disent les marins. Les bruits du dehors s'entendaient plus distinctement à travers l'espace, balayés par les courants atmosphériques. Vers 9 heures, l'iceberg se décoiffa soudain de son bonnet de vapeur. Indescriptible changement de décor qu'une baguette magique n'eût pas accompli en moins de temps et avec plus de succès. En peu d'instants, le ciel fut dégagé jusqu'aux dernières limites de l'horizon. Et la mer reparut, illuminée par les obliques rayons du soleil, qui ne la dominait plus que de quelques degrés. Un tumultueux ressac baignait d'une écume blanche la base de notre iceberg, et il dérivait avec une multitude de montagnes flottantes sous la double action du vent et du courant en s'infléchissant vers l'est-nord-est. « Terre !» Ce cri jeté du sommet de l'îlot mouvant, et à nos regards se montra Dirk Peters, debout sur l'extrême bloc, la main tendue vers le nord. Le métis ne se trompait pas. La terre, cette fois. Oui, c'était la terre, développant à 3 ou 4 milles ses hauteurs lointaines d'une teinte noirâtre. Et lorsque le point obtenu par une double observation à 10 heures et à midi eut été établi, il donna latitude 86 degrés 12 minutes sud, longitude 114 degrés 17 minutes est. L'iceberg se trouvait à peu près de 4 degrés au-delà du pôle antarctique et des longitudes occidentales que notre goélette avait suivies, sur l'itinéraire de la Jane, nous étions passés aux longitudes orientales.